France Culture.
Et le journal vous est présenté par Véronique Rebérode. Bonsoir Véronique.
Bonsoir Mathéo, bonsoir à tous. Un différend frontalier qui pourrait dégénérer en guerre, le ton monte entre la Thaïlande et le Cambodge. Des dizaines de milliers de Thaïlandais ont dû être déplacés, nous irons sur place. Ils sont convenus de se revoir, les pourparlers sur le programme nucléaire iranien ont repris. Aujourd'hui, l'Iran affirme s'être entendu avec les Européens pour poursuivre les consultations. Georges Ibrahim Abdallah de retour chez lui au Liban après 41 ans de prison en France. Ses premiers mots à Beyrouth ont été pour soutenir la cause palestinienne. En France, la Cour de cassation annule le mandat d'arrêt lancé contre Bachar el-Assad, mais ouvre une nouvelle porte pour permettre les poursuites contre l'ex-dictateur syrien. C'est ce que nous dira Florence Turm. Des affrontements et la menace d'une guerre, menace de la Thaïlande vis-à-vis de son voisin, le Cambodge. Depuis deux jours, les deux pays d'Asie du Sud-Est s'opposent à un niveau de violence jamais vu depuis près de 15 ans. Un différend frontalier qui a fait un mort côté cambodgien et 15 côté thaïlandais. La Thaïlande qui annonce l'entrée en vigueur de la loi martiale dans 8 districts frontaliers. Près de 140 000 Thaïlandais ont dû être déplacés, accueillis dans des camps. Notre correspondante Juliette Chénion s'est rendue dans l'un de ces centres d'accueil à Sourine.
Dans cette université, tous les bâtiments servent aux évacués. Partout, des centaines de familles patientes, des personnes âgées, des enfants allongés sur des nattes, dans une tente ou un hamac. Tous ont fui hier ou aujourd'hui. Les combats entre la Thaïlande et le Cambodge, une bande de 50 km autour de la frontière a été évacuée. C'est là que vit Sitichok, 22 ans. Il est arrivé dans la matinée.
Je me suis réveillé en entendant des tirs d'artillerie vers 5h du matin. C'était un bruit très fort et très proche. J'ai même senti le sol vibrer. Donc j'ai pris peur et je suis venu immédiatement ici au centre d'accueil.
Comme beaucoup, ce villageois est encore sous le choc.
Je reste ici en attendant que ça se calme, mais je n'arrive à penser à rien d'autre, je suis trop stressé.
Plus loin, assise sur une chaise en plastique, Chantira revient de la distribution d'eau, de nourriture et de vêtements. Elle n'est partie qu'avec une couverture et deux t-shirts.
Je n'ai nulle part d'autre où aller. J'espère ne rester ici que quelques jours.
Elle se souvient bien de la dernière flambée des tensions à la frontière. C'était en 2011, énième épisode d'un conflit territorial vieux de décennies.
Mais en 2011, ce n'était pas comme ça, avec de l'artillerie lourde. Là, c'est sérieux.
Difficile de dire quand ces évacués pourront rentrer chez eux. Les combats ont continué ce vendredi sur la frontière avec des tirs d'artillerie lourde, parfois entendus jusqu'ici en Thaïlande, à Sourine, à 60 km du Cambodge.
Comme souvent avec le secrétaire général des Nations Unies, les mots sont forts. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, fustige le manque d'humanité et de compassion pour les Palestiniens de la bande de Gaza, qui, je cite, traverse non seulement une crise humanitaire, mais une crise morale qui défie la conscience mondiale. Je ne peux pas expliquer le niveau d'indifférence et d'inaction que nous constatons chez trop de personnes dans la communauté internationale. Le manque de compassion, le manque de vérité, le manque d'humanité, a déclaré Antonio Guterres lors d'une intervention par vidéo adressée à l'ONG Amnesty International. Tandis qu'Israéliens, Américains et Hamas se renvoient l'échec de pourparlers pour une trêve à Gaza, les morts se comptent par dizaines chaque jour de faim et de malnutrition, surtout des enfants. 90 000 femmes et enfants ont besoin d'un traitement urgent, alerte le Programme alimentaire mondial. Près d'une personne sur trois ne mange pas depuis plusieurs jours, dit aussi l'agence onusienne. Israël annonce aujourd'hui autoriser les pays étrangers à larguer de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. On n'en sait pas plus sur ces éventuels parachutages de denrées alimentaires sur Gaza, donc affamés. Donald Trump qui minimise les déclarations d'Emmanuel Macron sur la reconnaissance d'un État palestinien. Je l'apprécie bien, dit le président américain, mais sa déclaration n'a pas beaucoup de poids. Ça ne changera rien, a ajouté Donald Trump. Sa première déclaration sur le sol libanais a été pour afficher son soutien à la cause palestinienne et appeler à la résistance. Georges Ibrahim Abdallah est arrivé à Beyrouth après être sorti tôt ce matin de prison en France où, condamné pour complicité d'assassinat de diplomates américains et israéliens, il a été incarcéré 41 ans. Des douzaines de soutiens l'attendaient à l'aéroport de Beyrouth, où on retrouve Antoine Saradin.
La famille de Georges Abdallah avait demandé qu'il n'y ait pas d'étendard, et pourtant ils sont tous là, dans cette foule réunie à l'aéroport. Surtout ceux du Parti communiste libanais. Autour, des visages habitués de tous les rassemblements populaires de la capitale, encadrés par les hommes de l'armée libanaise.
On essaie de nous empêcher toute forme de manifestation festive pour accueillir un tel militant. C'est inacceptable. Les autorités devraient lui accorder ce droit, c'est un honneur qu'il apporte au peuple.
En effet, pas de ministre présent à son arrivée. Le pouvoir libanais se fait discret. La foule, elle, se presse contre les grilles du hall d'honneur où apparaît soudain un homme âgé, cheveux gris, arborant un polo rouge vif. L'avocate de Georges Abdallah l'approche, elle fond en larmes.
Mes enfants n'avaient que quelques mois et descendaient déjà au rassemblement en son soutien. Nous lui écrivions des lettres pour tous ses anniversaires. Et maintenant, nous allons enfin le voir. C'est comme un rêve.
Son client salue la foule. Plus de 40 ans après son arrestation en France, le Liban a bien changé. La guerre civile s'est terminée. D'autres lui ont pourtant succédé. Georges Abdallah saisit un micro, s'exprime pour la première fois à Beyrouth depuis sa libération.
La résistance, c'est la liberté, celle qui nous rassemble autour de Gaza. C'est notre honneur et notre dignité à tous. Merci à tous ceux qui se sont battus pour la liberté.
Un cortège de voitures le conduit ensuite vers son village natal au Nord-Liban. Malgré la joie des sympathisants, certains, avant de s'en aller, expriment leur inquiétude. Celle que dans le Liban, encore la cible des bombardements israéliens, leur icône de retour ne soit devenue une cible.
Ils se sont vus en Turquie. Une délégation iranienne a retrouvé à Istanbul des émissaires français, britanniques et allemands pour reprendre les pourparlers sur le programme nucléaire iranien. L'Iran affirme s'être entendu avec les Européens pour poursuivre les consultations. Des discussions qui interviennent alors où les trois puissances européennes menacent de rétablir les sanctions contre Téhéran. Ankara, les précisions d'Anand Lower.
Européens et Iraniens sont donc convenus de se revoir et c'est en soi une avancée qu'aura permise cette nouvelle rencontre d'Istanbul. C'était la deuxième depuis mai sur le dossier hautement sensible du nucléaire iranien, mais surtout la première depuis l'attaque israélienne de juin qui avait aussi donné lieu à des bombardements américains contre des installations nucléaires de la République islamique. L'Iran a qualifié de franche et approfondie la discussion avec des émissaires français, britanniques et allemands. Comme après la dernière rencontre, très peu d'informations ont filtré, mais l'Iran, sous la menace de lourdes sanctions, semble vouloir maintenir le dialogue. Ce vendredi, le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique s'est par ailleurs dit encouragé par le feu vert iranien à une visite de l'agence dans les semaines à venir. Téhéran a en effet suspendu, début juillet, sa coopération avec cet organe des Nations Unies. Paris, Londres et Berlin, qui, contrairement aux États-Unis, ne se sont pas retirés de l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien, menacent de rétablir des sanctions à l'expiration de cet accord en octobre si les discussions n'aboutissent pas.
Anne Handlauer à Ankara. C'était une décision très attendue par de nombreuses ONG, partis civils et observateurs internationaux. La Cour de cassation a estimé cet après-midi qu'aucune exception ne pouvait lever l'immunité personnelle d'un chef d'État. Elle a donc annulé le mandat d'arrêt émis par des juges d'instruction parisiens contre l'ancien président syrien Bachar el-Assad pour complicité de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. En l'occurrence, les attaques chimiques imputées au pouvoir syrien et commises en août 2013, elles auraient fait plus d'un millier de victimes. Mais pour autant, Florence Turne, la Cour de cassation a ouvert une autre porte à la possibilité de poursuivre l'ancien dictateur syrien.
L'immunité personnelle dont bénéficie un chef d'État étranger interdit qu'un mandat d'arrêt soit émis contre lui par un juge français. Elle s'applique, estime la Cour, même si le gouvernement ne reconnaît plus sa légitimité, comme il l'avait fait vis-à-vis du régime syrien en 2012. Il n'existe aucune exception internationale, même en cas de génocide ou de crime de guerre. En revanche, cette immunité personnelle reste provisoire et la Cour de cassation reconnaît pour la première fois une exception à l'immunité fonctionnelle. Les agents de l'État où les anciens dirigeants peuvent être poursuivis. C'est précisément le cas de Bachar el-Assad, renversé en décembre dernier par les rebelles islamistes, insiste l'avocate Clémence Witt, qui représente plusieurs parties civiles dans ce dossier.
C'est très clair. Aujourd'hui, en France, un ancien chef d'État ne peut plus se réfugier derrière l'immunité fonctionnelle pour se protéger de poursuites pénales. Bachar el-Assad, dès lors qu'il n'est plus chef d'État, ne bénéficie pas d'une immunité fonctionnelle et doit donc être l'objet d'investigations en France. C'est donc une première avancée, un premier pas, la levée d'un tabou. Ça reste une position très forte, même si les victimes espéraient, nous espérions que la Cour de cassation rendrait un arrêt de principe sur l'immunité personnelle du chef d'État en exercice.
L'information judiciaire ouverte en France à l'encontre de Bachar el-Assad peut donc se poursuivre. De nouveaux mandats d'arrêt pourront être délivrés et même s'ils ne sont pas exécutés, l'ancien dirigeant étant réfugié en Russie, un procès par défaut, donc en son absence, pourrait se tenir un jour, d'autant que d'autres anciens responsables syriens sont également poursuivis dans ce dossier.
La semaine dernière, l'administration Trump demandait l'incinération de tonnes de nourriture destinées à des enfants souffrant de malnutrition, incinérés car périmés, au moment où les États-Unis décident de revoir drastiquement à la baisse leur aide internationale. Cette fois, ce sont des contraceptifs dont Washington demande la destruction. Il y en aurait pour près de 10 millions de dollars, des stocks d'implants et de pilules contraceptives que Donald Trump préfère voir détruits plutôt qu'expédiés dans des pays pauvres ou en développement. Caroline Félix, bonsoir.
Bonsoir.
On ne peut s'empêcher bien sûr d'y voir un choix politique.
Oui, le problème vient du démantèlement de l'USAID, l'agence de développement américaine. Les coupes budgétaires s'élèvent à plusieurs milliards de dollars. Résultat, il n'y a plus assez de personnel et de budget pour gérer ces énormes stocks commandés par la précédente administration. L'administration actuelle, conservatrice, pourrait faire le choix de donner ses produits aux ONG. Plusieurs se sont d'ailleurs proposés de les distribuer, mais non, le choix a été fait de dépenser près de 200 000 dollars pour les détruire. Il s'agit donc d'un volume très important de pilules et d'implants contraceptifs, mais aussi de dispositifs intra-utérins pour prévenir les grossesses non désirées. Il y en a, vous l'avez dit, pour 10 millions de dollars. Ces produits qui périment en 2027 sont actuellement stockés en Belgique, près d'Anvers, et ils devaient certainement être envoyés en Afrique, d'après l'agence Reuters. D'où l'inquiétude des ONG, à l'image de Médecins sans frontières, Meir Manka, des directeurs du plaidoyer.
Cette destruction de médicaments et de fournitures va irrémédiablement conduire à ce que des personnes meurent. Parce que dans beaucoup d'endroits où la contraception n'est pas disponible, on voit des taux de mortalité maternelle extrêmement élevés. C'est la conséquence de grossesses non désirées.
Et il réclame la suspension de ce projet de destruction. Destruction qui doit d'ailleurs se faire chez nous en France, d'après Reuters. C'est un centre d'incinération spécialisé dans les déchets médicaux qui va s'en charger, on ne sait pas, à la commune exacte. Mais d'après Reuters, c'est une opération d'ampleur qui s'annonce avec des dizaines de camions mobilisés pour faire le trajet entre les entrepôts en Belgique et la France.
Merci Caroline Félix. François Bayrou se dit favorable au projet de loi initial de révision constitutionnelle sur la Corse, sans intégrer les modifications suggérées par le Conseil d'État, modifications jugées inacceptables par les nationalistes corses. Le projet de révision constitutionnelle sur la Corse qui vise à octroyer à l'île une autonomie dans la République doit être présenté en Conseil des ministres mercredi prochain. Son ouverture est prévue en 2028, un musée consacré à l'architecte et maître français de l'art nouveau, Hector Guimard. Il sera installé dans l'hôtel Mezzara, hôtel particulier situé dans le 16e arrondissement de Paris et conçu par le célèbre architecte au début du 20e siècle pour l'industriel Paul Mezzara. Une promesse de bail amphithéotique d'une durée de 50 ans a été signée ce matin entre le ministère de la Culture et la société foncière Guimard qui sera chargée de l'exploitation. Les explications de Fiona Mogadam.
C'est le seul bâtiment de l'architecte Hector Guimard qui est dans le domaine public. L'hôtel Mezzara n'est plus exploité depuis 10 ans. Il accueillait depuis 1956 un internat pour jeunes filles. Mais il garde encore certains aspects d'époque, comme l'atrium dominé par l'escalier et sa rampe en fonte, la verrière sur le toit, certaines portes ornées de vitraux ou encore des lustres en fer forgé. Pour Nicolas Oriot, le président du Cercle Guimard, l'association chargée de la promotion et découverte de l'œuvre de l'architecte, le vrai trésor se trouve dans
la salle à manger qui a été totalement décorée et meublée. Et c'est le seul ensemble mobilier qui est resté dans son espace d'origine. Le mobilier s'intègre dans la maçonnerie. Et là, vous avez toute l'expression de Guimard.
Une expression qui se retrouvera évidemment partout dans le futur musée.
Déjà, on veut présenter des vraies œuvres. Des vrais objets, des meubles, des papiers peints, des tapis, des poignées de porte, des béquilles. On veut montrer toutes les facettes de ce créateur. Notre idée, c'est quand même de lui apporter la reconnaissance qu'il mérite.
Il n'y avait jusqu'à présent aucun lieu dédié à l'architecte, Nicolas Oriot.
On veut quelque part réparer une injustice. Guimard est la figure centrale de l'art nouveau à Paris. En Europe, vous avez Horta ou Gaudi. On peut voir ce qu'ont fait ces architectes. Et à Paris, c'était vraiment manquant, alors que Guimard avait très profondément marqué le paysage urbain de Paris avec ses entrées du métro.
Une partie des archives se trouve dans les musées d'Orsay et des arts décoratifs. Des reconstitutions sont aussi prévues pour meubler le futur musée. Les travaux devraient durer une année pour un montant d'environ 6 millions d'euros, financé par l'entrepreneur privé qui exploitera les lieux.
Un très bon premier semestre 2025 pour la SNCF avec un bénéfice de 950 millions d'euros. La compagnie ferroviaire française a multiplié par 6 son bénéfice sur un an grâce au fait d'avoir accueilli plus de trains sur son réseau et aussi plus de voyageurs. Le temps demain, samedi 26 juillet, petite amélioration sauf sur la façade est. Le thermomètre affiche au petit matin des valeurs comprises entre 12 et 17 degrés. En général, entre 17 et 21 degrés sur le littoral méditerranéen et en Corse. L'après-midi, il fera entre 20 et 24 degrés près de la Manche, 28 à 23 à 33 degrés près de la Méditerranée et 24 à 29 degrés sur le reste du pays. C'est la fin de ce journal. Il a été préparé grâce à l'aide de Caroline Beneteau à la technique d'Aliard.